entre l'Europe et le Dar el-Islam. Les Turcs et les Persans connaissent des nuits les versions d'Antoine Galland et de Richard Burton, et ne les traduisent que rarement de l'arabe. Ils imaginent, à leur tour, sur ce qu'ont traduit d'autres avant eux. La Scheherazade qui retrouve l'Iran au XXe siècle a beaucoup voyagé. Elle s'est chargée de la France de Louis XIV, de l'Angleterre victorienne, de la Russie tsariste. Son visage même provient d'un mélange entre les miniatures safavides, les costumes de Paul Poiret, les élégantes de Georges le Pape et les femmes iraniennes d'aujourd'hui. Du destin cosmopolite des objets magiques. Voilà un titre pour Sarah. Il y serait question, pêle-mêle, de lampes à génie, de tapis volants et de babouches mirifiques. Elle y montrerait comment ces objets sont le fait d'efforts successifs communs, et comment ce que l'on considère comme purement oriental est en fait, bien souvent, la reprise d'un élément occidental, modifiant lui-même un autre élément oriental antérieur, et ainsi de suite. Elle en conclurait que l'Orient et l'Occident n'apparaissent jamais séparément, ils sont toujours mêlés, présents l'un dans l'autre, et que ces mots, Orient, Occident, n'ont pas plus de valeur heuristique que les directions inatteignables qu'ils désignent. J'imagine qu'elle parachèverait le tout par une projection politique sur le cosmopolitisme comme seul point de vue possible sur la question. Moi aussi, si j'étais plus quoi? Plus brillant, moins malade, moins velléitaire. Je pourrais développer cet article dérisoire sur Marouf, Savetier du Caire, Henri Rabaud et Charles Mardrus, et construire une vraie synthèse sur ce fameux Tiers Orient dans la musique française. Autour des élèves de Massenet, peut-être. Rabaud lui-même. Mais aussi Florent Schmitt, Reynaldo Hahn, Ernest Chausson. Et surtout, Georges Enesco. Voilà un cas intéressant. Un oriental qui revient à l'Orient, en passant par la France. Tous les élèves de Massenet ont composé des mélodies de désert ou de caravane sur des poèmes orientalistes. Depuis la caravane de Gautier. La caravane humaine au Sahara du monde. Aux petites orientales de Jules Lemaître. Je me suis toujours demandé qui était ce Jules Lemaître. Sans doute bien différent de la caravane d'à travers le désert, air du deuxième acte de Marouf. Quand Marouf, pour tromper les marchands et le sultan, s'invente une riche caravane de milliers de chameaux et de mules qui devraient arriver d'un jour à l'autre, et décrit en détail son chargement précieux, à grand renfort d'orientalisme, ce qui est assez vertigineux. Il y a un rêve d'Orient dans les récits arabes eux-mêmes, rêve de pierreries, de soieries, de beauté, d'amour, et ce rêve qui, pour nous, est un songe oriental, est en fait une rêverie biblique et coranique. Il ressemble aux descriptions du paradis du Coran, où l'on nous présentera des vases d'or et des coupes remplies de tout ce que notre goût pourra désirer, et tout ce qui charmera nos yeux, où nous aurons des fruits en abondance, dans des jardins et des sources, où nous porterons des vêtements de soie fine et de brocart, où nous aurons pour épouse des houris aux beaux yeux, où l'on nous servira à boire un nectar cacheté de musc. La caravane de Marouf, celle des mille et une nuits, utilise ironiquement ces éléments. Bien sûr, sa description est exagérée, outrée. C'est un mensonge fait pour séduire l'assistance, un catalogue merveilleux, de rêves. On trouverait dans les nuits beaucoup d'exemples de ce second degré, de cet orientalisme dans l'Orient. L'air de la caravane d'Henri Rabaud rajoute un mouvement à cette construction. La traduction de Mardrus du conte « L'histoire du gâteau échevelé au miel d'abeille » est adaptée sous le titre de « Marouf, savetier du Caire » par un librettiste, Lucien Nepoty, puis mise en musique par Rabaud, avec une orchestration brillante. Là encore, Massenet est dans l'ombre, caché derrière une dune de ce désert imaginaire à travers lequel chemine, en sol mineur bien sûr, dans les tris des cordes et les glissandos des vents, les chameaux et